Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est Francesca à l'animation. Il est 19h01 et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des voix sculptées à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
La France ne travaille pas assez et ne produit pas assez. C'est ce que le Premier ministre François Bayrou a affirmé mardi dernier. Mais est-ce vraiment là le fond du problème? Les jeunes diplômés rêvent d'ailleurs, préférant construire leur avenir sous d'autres latitudes, à Dubaï, à Bali ou ailleurs. Parce que le monde du travail n'a pas si évolué que ça. Le patriarcat dans certaines entreprises, quand on rêve d'autonomie, d'équilibre et de changer le monde, encore peu d'entreprises comprennent combien ces jeunes ont eux aussi besoin d'un grand bol d'air frais dans les organigrammes. Ils ne fuient pas le travail, non. Ils fuient un système qui n'offre plus de perspectives. Pendant ce temps, les seniors, pourtant riches d'une expérience précieuse, peinent à retrouver un emploi. Ils sont mis sur la touche au seul motif de leur âge. Et les entreprises, paradoxalement, n'arrivent pas à recruter. Pénurie de médecins, dans les hôpitaux, il manque des infirmiers, des infirmières, dans les écoles, des professeurs. Les entrepreneurs, eux, choisissent de partir sous d'autres cieux, fuyant charges et lourdeurs administratives. La France ne travaille pas assez et ne produit pas assez. Pourtant, on continue à empiler. Lois, règlements, interdits, parfois jusqu'à l'absurde. Tenez, l'exemple en date, une boulangerie sanctionnée pour avoir eu l'audace d'ouvrir le 1er mai. Oui, c'est la fête du travail. Et non, on ne doit pas travailler. Mais celui qui veut travailler, il doit pouvoir. Parce que dans un pays qui appelle à travailler plus, on punit ceux qui veulent travailler. Perte de confiance, perte d'argent, problème de santé mentale. Ajoutons à cela une insécurité qui s'installe, des attaques violentes tous les deux jours et une défiance généralisée envers les institutions. La peur de la guerre à nous faire du souci pour l'avenir, notre avenir, l'héritage futur aussi. Et ce qui est de notre héritage, les actifs de demain, étudiants. Et aujourd'hui, nous allons en parler dans un instant avec notre invité du jour. Ils vivent dans une précarité de plus en plus alarmante. J'ai bien dit les travailleurs de demain, à condition qu'ils survivent jusqu'à la fin de leurs études et qu'à l'embauche, on ne leur demande pas d'être ces juniors avec 5 ans d'expérience. Et puis, qu'ils ne tombent pas dans une entreprise avec une culture de 1912. Et bien sûr, à condition aussi qu'ils gardent foi en un avenir ici et non ailleurs. Franchement, je suis bien curieuse de savoir, face à tout cela, s'ils auront envie demain à travailler ou se tuer. Au sommaire de cette matinale de 19h, à l'interview ce soir, ce sera Hugo et nous recevons Anne-Cécile Cazot, chargée d'études et de recherche à l'INJEP. Nous allons parler du rapport sur la précarité étudiant. En flash info, ce sera Fabien. Pour la chronique Actu, on aura Nordine, nous parlera Actu Philo, une courte analyse de l'actu politique. En zoom, ce sera Éléonore, en compagnie de notre invité Jean-François, directeur du théâtre L'Étoile du Nord, et nous allons parler festival. Et enfin, pour finir, ce sera Gauthier. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, l'interview, on retrouve Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Francesca.
Avec notre première invitée, Anne-Cécile Cazot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Anne-Cécile, vous êtes chargée d'études et de recherche à l'INJEP et auteur du dernier rapport d'enquête sur la précarité étudiante, justement, publié le 17 avril sur le site. Est-ce bien cela?
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors du coup, Hugo, qui nous conduit l'interview?
Oui, commençons par le commencement. Quand on est étudiant, on travaille parfois tard, on se réveille tôt le matin et on normalise presque la précarité. Alors où commence vraiment la précarité étudiante?
Ah, c'est une bonne question. La précarité étudiante, ce qui est très clair pour moi, c'est que souvent elle est définie dans les esprits comme un manque d'argent. Et justement, moi, je ne prends pas ce parti. Je dis que la précarité, elle se loge dans un ensemble plus large d'instabilité ou d'insuffisance des ressources, y compris des ressources émotionnelles, relationnelles ou matérielles. Et donc, elle commence quand on voit une forte dégradation de ses conditions de vie au quotidien et qu'on est confronté à un quotidien très préoccupant, assez inquiet, parce qu'on ne sait pas exactement comment on va faire le lendemain, les mois qui suivent, etc.
Votre rapport, il porte sur l'Île-de-France. Est-ce qu'en Île-de-France, on observe ce phénomène qui est peut-être plus fort qu'ailleurs ?
Alors, c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas comparé l'Île-de-France à d'autres régions. Après, c'est sûr que j'ai choisi d'étudier l'Île-de-France parce que la vie est chère dans cette région, que les loyers sont très chers et le logement participe énormément à l'expérience de la précarité étudiante parce que la charge du loyer pèse énormément sur les étudiants et les étudiantes. Et donc, c'est sûr que c'est une région qui est très concernée par ce phénomène.
Justement, la précarité, comment est-ce qu'elle a évolué au fil de ces dernières années ?
Alors, c'est intéressant. On aura peut-être eu tendance à imaginer que la crise Covid a fait éclater au grand jour la précarité, voire l'a fait advenir, ce qui n'est pas le cas. Les grandes enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante montrent que c'est un phénomène structurel, ce qui veut dire que depuis plus de 20 ans, les enquêtes montrent qu'il y a entre 26 et 32% d'étudiants qui disent avoir des insuffisances budgétaires. Donc, c'est à la fois un phénomène qui a été peut-être aggravé par la crise sanitaire, puis l'augmentation du coût de la vie. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui existe depuis plus longtemps.
Face à cela, on a l'État qui doit être concerné. Est-ce que les aides familiales et publiques sont nécessaires, mais est-ce qu'elles sont souvent, limitées, Anne-Cécile Cazot ?
Oui, alors ce que je montre dans le rapport, et ça rejoint les travaux d'autres chercheurs qui ont travaillé sur cette question, c'est que les étudiants aujourd'hui, en majorité, bénéficient d'aides de leur famille et que c'est souvent ces aides qui vont principalement les aider. En tout cas, c'est le cas pour les étudiants plus favorisés. Et en fait, aujourd'hui, on ne se rend pas nécessairement compte qu'énormément de jeunes font des études, n'ont pas une famille qui peut apporter cette aide de manière suffisante. En tout cas, financièrement, ce n'est pas assez.
Justement, alors on parlait de logement. Le 14 janvier, le Premier ministre il a annoncé la création de 15 000 logements étudiants par an. Pendant 3 ans, en mobilisant donc foncier disponible de l'État. Les syndicats étudiants restent toujours prudents. Est-ce qu'on peut y croire ?
Alors, je pense que je vais aussi rester prudente, ouais. Parce que le logement étudiant, c'est un sujet qui fait l'objet de débats politiques et aussi un peu de promesses politiques depuis un certain nombre d'années. Et la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui encore et toujours confronté à un manque très fort de place dans les résidences étudiantes. Donc je ne m'avance pas trop. Je dirais que c'est un objectif louable d'en proposer plus, voire que c'est extrêmement nécessaire. Donc voilà.
Dans la réalité, alors comment on peut trouver un logement en étant étudiant ?
Alors, les étudiants que j'ai rencontrés vont d'abord me dire ce qui est très difficile, c'est qu'on n'a pas nécessairement les bons garants. Que ce soit parce qu'on est étudiant étranger, par exemple, et que nos parents vivent à l'étranger, ou parce qu'on a des parents qui ne travaillent pas, qui travaillent en intérim, qui ont des petits salaires. Là, il y a plusieurs options. Si on est boursier, parfois on a une place en résidence CROUS. Donc là, c'est super. Il y a d'autres problèmes, mais en tout cas, on est...
Et là, on demande zéro garant pour une résidence CROUS ?
Là, du fait d'être boursier, on n'a pas besoin d'avoir un dossier de garant, comme quand on cherche dans le privé. Et sinon, quand on se tourne vers le privé, ce que je vois, c'est que les étudiants soit se retrouvent à passer beaucoup par le bouche à oreille pour être dans des sous-locations, des solutions un peu plus temporaires, assez informelles, parfois du coup qui les exposent à des fins abruptes d'expérience dans leur logement, notamment des étudiants qui sont hébergés par des tiers. Donc c'est ni de la famille proche ni des amis, c'est des personnes plus ou moins connues. Donc ils trouvent un logement. Mais parfois, ils doivent aussi quitter de manière très abrupte ce logement.
Oui, parce que pour un étudiant, il y a 2 choix. Soit rester chez ses parents et du coup faire le trajet qui peut être très long jusqu'à Paris, ou trouver un logement pas trop cher, mais qui sera aussi insalubre. Parce que déménager lui est impossible. Est-ce que les Jeux Olympiques 2025 ont joué un rôle dans la précarité immobilière ?
Alors, je précise, tous les logements dans le privé ne sont pas insalubres. C'est juste que quand on a moins le choix, parce qu'on a des moins bons dossiers, parfois on se retrouve à accepter des logements dans des conditions plus dégradées, notamment des conditions de logement dans Paris, où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver.
Et ils sont tout petits aussi.
Et ils sont souvent tout petits, voilà. Alors, pour ce qui est des JO... J'en ai, au final, pas beaucoup entendu parler dans mon enquête.
Donc parce qu'il y a les résidences CROUS qui ont été mobilisées par la police, on l'a vu.
Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de reportages sur les résidents du CROUS à qui on a demandé de libérer leur chambre. Et donc, sans doute que ça a participé à ces sentiments d'instabilité que les étudiants peuvent ressentir. C'est juste que moi, dans mon rapport, ce n'est pas une expérience qui a été partagée avec moi.
Okay. Et qu'est-ce que peut faire l'État pour résoudre la situation ?
la situation de la précarité étudiante.
Immobilière, particulièrement.
Ah, immobilière particulièrement. Alors déjà, oui, construire plus de logements et peut-être revoir les critères d'attribution de logements sociaux qui ne sont pas spécifiquement pour les jeunes ou pour les étudiants. C'est-à-dire permettre aux étudiants d'avoir aussi accès au parc de logements sociaux plus généralement.
Les étudiants, ils sont donc contraints de travailler, ils vont accepter un emploi qui va impacter peut-être leurs études et leur situation financière. Au niveau du porte-monnaie, ça va avec un travail, mais les études se retrouvent mises à mal. Qu'est-ce qui se passe pour ces étudiants-là ?
Alors, plusieurs choses. Quand on est fortement dépendant de son emploi pour vivre et que, par exemple, on n'a ni aide de sa famille et très peu d'aide publique, eh bien, on va faire des choix qui mènent à suivre plus difficilement ses études. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Certains étudiants arrêtent leurs études, sont contraints d'abandonner. D'autres m'expliquent qu'au final, ils ou elles s'accrochent, mais trouvent que déjà c'est difficile de rendre les devoirs, d'être présent dans les cours, de vraiment participer à se sentir pleinement pris dans cette promotion. Et puis par ailleurs, parfois ces étudiants se sentent aussi plus seuls, c'est-à-dire plus en décalage avec le reste des étudiants de leur formation.
Oui, parce qu'un petit boulot ça prend du temps, on va travailler peut-être tard et se lever tôt. Est-ce qu'ils ont quand même réussi à trouver des salaires assez élevés dans ces petits boulots ? Est-ce que c'est aussi un problème ?
Alors c'est aussi un problème pour les emplois où on est un peu payé à l'heure et donc on a des variations de revenus selon les mois parce qu'on ne sait pas toujours si on va travailler le même nombre d'heures. Après, certains étudiants, à l'inverse, acceptent des CDI de 20 heures, 25 heures. Donc eux, ils savent qu'ils vont être mieux payés. Souvent, c'est une rémunération un peu plus importante. Mais c'est eux qui sont aussi dans un emploi extrêmement concurrentiel avec leurs études et qui n'ont pas l'impression d'être étudiants. C'est un peu ce qu'on me dit. C'est-à-dire, je passe mon temps dans les transports un peu en cours et beaucoup à travailler. Je ne sais plus si je suis vraiment étudiant, en fait. Je n'ai pas l'impression que c'est ça que j'avais en tête quand on m'a vendu, entre guillemets, le rêve des études supérieures.
La vie étudiante. Mmh. Et qui dit travail, on travaille aussi pour s'alimenter. Et près de la moitié des étudiants, de l'enquête, ils ont recours à des épiceries solidaires, des paniers repas ou à la distribution alimentaire. C'est aussi la queue dans ces structures-là, non ?
Oui, absolument. J'ai eu la chance de faire quelques observations dans des distributions organisées par des associations à Paris. Et c'est très clair qu'il y a une forte demande. Il y a une longue file d'attente pour ces distributions. Et des demandes qui continuent à être très importantes. C'est très frappant, en tout cas.
Et du coup, ça inclut de mal s'alimenter ? Enfin, est-ce que la finalité, c'est ça ?
La finalité de...
Quand on n'a pas beaucoup d'argent pour s'alimenter, qu'on a recours à, je sais pas, à des banques alimentaires, s'il y a beaucoup de queues, est-ce qu'au final on en revient à manger des pâtes et c'est un peu tout. Enfin, c'est un peu le stéréotype étudiant qu'on a, mais on est tous passés par là. Enfin, en tout cas, pour ma part.
Alors, je vois en fait, les queues peuvent dissuader. Toute la logistique, au final, autour de l'aide alimentaire peut dissuader une personne qui en a pourtant besoin parce qu'il faut s'inscrire, être au bon moment sur le site pour avoir une place dans ce créneau-là et puis se déplacer pour faire la queue, repartir avec son colis, etc. Donc parfois, en effet, certains étudiants que j'ai rencontrés vont me dire « Ah oui, je sais que ça existe, mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est trop compliqué et donc je vais plutôt me concentrer sur d'autres stratégies comme par exemple... manger très peu d'aliments un peu basiques et peu chers, comme les pâtes.
Ce qui peut poser des problèmes de santé, ce qui m'amène à ce thème-là, la santé, est-ce que, enfin, ça va pas très fort non plus au niveau étudiant, par exemple la santé mentale, les psychologues, on le sait, est-ce que le dispositif santé psy étudiant permet d'aider ces jeunes-là ?
Alors, c'est un dispositif qui a vraiment vocation à les aider, en tout cas, et c'est intéressant parce qu'il a été repris plusieurs fois, il a évolué depuis sa création, ce qui permet d'avoir quand même aujourd'hui plus de séances qu'à sa création initiale. Après, est-ce qu'il est confronté, comme beaucoup de dispositifs, au fait d'être pas très bien connu ? Et par ailleurs, que le côté démarche, inscription sur la plateforme, trouver quelqu'un qui a le bon créneau au bon endroit, etc., ça peut aussi décourager certains étudiants. Donc oui, il est là pour aider. Il faut le connaître, s'en saisir, trouver une personne disponible pour accompagner les étudiants, enfin pour ça. Mmh. Et dans ce cas-là, ça peut être une manière d'avoir, je crois, jusqu'à 8 séances remboursées.
Parce que justement, dans votre rapport, il y a une étudiante qui témoigne et qui dit qu'elle devrait se faire traiter psychologiquement, mais qu'elle n'a pas d'argent pour le faire, donc pas de séance au final.
Oui, exactement. Elle se dit « je sais que ça ne va pas bien ». Je suis très stressée, très préoccupée par mes finances tout le temps et donc c'est un poids permanent. Et en même temps, l'idée d'avancer de l'argent, de débourser de l'argent pour des séances, quand bien même éventuellement elles pourraient être remboursées, ça me décourage totalement. Après, en fait, ce dispositif, il pourrait permettre, en complément avec d'autres dispositifs de solidarité, de mutuelle étudiante, de ne pas avoir d'avance de frais. Mais là aussi, il faut connaître ses droits, il faut avoir fait les bonnes démarches. Et ce n'était pas le cas de cette étudiante, qui du coup avait l'impression que c'était inenvisageable d'avoir un suivi psy à ce moment-là de sa vie.
Justement, pour nos auditeurs, quelles sont les démarches à faire et où est-ce qu'on peut les faire?
Alors, il y a... Alors, je vais dire sur Internet, les sites, si on tape santé psy étudiant, c'est une plateforme qui permet de s'inscrire. Avant, il fallait être orienté par un médecin généraliste. Mmh. Et cette condition-là, elle a été assouplie, ce qui permet maintenant d'être orienté plus facilement vers le dispositif. Après, il y a aussi des dispositifs de complémentaire santé solidaire pour les étudiants qui ont des faibles moyens ou dont les parents ont des faibles moyens. Et là aussi, il faut aller chercher sur Internet les démarches. C'est pour le coup... Si ça semble compliqué quand je l'explique et que l'idée d'aller sur Internet chercher les informations semble vraiment aussi un peu une montagne à surmonter, il ne faut pas hésiter à aller vers les travailleurs sociaux dans les universités, dans les CROUS, qui sont aussi là pour accompagner dans ces démarches.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Tout de suite, on va écouter Samer Ahmad et Many Days. Bonne chance.
Avant le soleil, écrasant, intemporel, petit-déj, brassant, lait de coco, amande, groseille. De l'ordre dans ma barbe, Marlboro à l'oreille. Chaussettes montantes, all-star, polo, Ralph Lauren. C'est toute une cérémonie quand on appelle au calme. Bien sûr qu'on met de la mélodie sur nos mélodrames. Aujourd'hui je parle de paix, j'ai pas d'adversaire. Prendre des nouvelles des gens de ma planète Terre. J'ai du réseau dans coup de fil au ref Asdin. Sa meuf me trouve trop chaud, sa meuf le trouve has-been. Il ne fume plus de verdure, m'a dit qu'il positive. Il me vante les vertus de la psilocybine. Raquel, c'est celle qui a fui la dictature cubaine. Une bête de bouffée d'air pur, de nature humaine. Elle est belle et chaude comme les couvertures du bled. Écrasant, intemporel, petit-déj, brassant, lait de coco, amande, groseille. De l'ordre dans ma barbe, Marlboro à l'oreille. Chaussettes montantes, all-star, polo, Ralph Lauren. C'est toute une cérémonie quand on appelle au calme. Bien sûr qu'on met de la mélodie sur nos mélodrames. Aujourd'hui je parle de paix, j'ai pas d'adversaire. Prendre des nouvelles des gens de ma planète Terre. J'ai du réseau dans coup de fil au ref Asdin. Sa meuf me trouve trop chaud, sa meuf le trouve has-been. Il ne fume plus de verdure, m'a dit qu'il positive. Il me vante les vertus de la psilocybine. Raquel, c'est celle qui a fui la dictature cubaine. Une bête de bouffée d'air pur, de nature humaine. Elle est belle et chaude comme les couvertures du bled. Son projet, transformer sa graisse en masse musculaire. On a tous des peines de cœur sous nos petites cicatrices. Mais la flemme d'en faire un thème en multisyllabique. Bonne chance et prends soin de toi. On a tous des peines de cœur sous nos petites cicatrices. Mais la flemme d'en faire un thème en multisyllabique. Bonne chance et prends soin de toi. Sur la route des plages on roule, les sables dans le vent. Un petit pis a toujours quelques grammes dans le sang. Et ceux qui se pavanant, balançant que le rap n'est qu'un truc de jeunes, ont perdu leur âme d'enfant. les choix se décident pile ou face. Chérie, tranquille ou quoi? Mission, c'est centre-ville ou plage. Elle me glisse un, je t'aime et toi? J'ai dit d'accord, etc. On est tous nés sur la même étoile. Elle m'a charmé du regard dans l'allée du parc, sur un banc, en regardant des gens pressés d'aller nulle part. On parle de tous ces mythes qu'on n'aurait jamais dû croire. Ni qu'une princesse, un crapaud, un nénuphar. C'est toute une cérémonie quand on appelle au calme. Bien sûr qu'on met de la mélodie sur nos mélodrames. Aujourd'hui je parlais de paix. J'ai pas d'adversaire. Et prendre des news de gens de ma planète Terre. On a tous des peines de cœur sous nos petites cicatrices. Mais la flemme d'en faire un thème en multisyllabique. Bonne chance et prends soin de toi. On a tous des peines de cœur sous nos petites cicatrices. Mais la flemme d'en faire un thème en multisyllabique. Bonne chance et prends soin de toi.
Nous venons donc d'écouter Samer Ahmad et Manides, le titre « Bonne chance ». Tout de suite, on retrouve l'interview avec Hugo.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors, on retrouve tout de suite notre invitée Anne-Cécile Cazot. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans votre, dans le rapport, dans la synthèse, je lis « Ces étudiants doivent faire face à un quotidien rythmé par des choix budgétaires contraints, donc entraînant des renoncements. J'ai envie de dire, sans forcément parler de genre, mais est-ce que les filles, les femmes, donc par rapport au cycle menstruel, par exemple, est-ce qu'elles ont plus de charges? Et comment ça se gère, ça Comment elles le gèrent? Comment elles le vivent?
Alors, c'est une excellente question et je pense qu'on peut tout à fait parler de genre. Aussi parce que c'est une question qui m'a beaucoup animée quand je faisais cette enquête. Les études statistiques qui ont alimenté mon travail ont plutôt tendance à montrer que c'est énormément la classe sociale ou le fait d'être étudiant étranger qui joue sur le fait d'être exposé à la précarité étudiante. Mais il y a aussi une question genrée qui se pose très clairement dans la manière dont on gère son budget au quotidien, parce que justement, vous l'avez dit, il y a des charges en plus pour les femmes. Alors, dans mon enquête, certaines étudiantes avaient la chance d'être dans une université qui avait fait des distributions de culottes menstruelles. Mmh. Et elles étaient très soulagées parce qu'elles disaient que ça avait vraiment été un poids en moins pour elles. Et d'autres, dans des universités qui n'avaient pas eu l'occasion de faire ces distributions, expliquaient que quand même, elles se retrouvent à faire des arbitrages assez pénibles entre s'acheter des protections menstruelles ou faire ses courses la semaine. Donc c'est très pénible, au final, d'ajouter cette dimension-là en plus pour ces jeunes femmes.
Et est-ce qu'on va généraliser ces distributions? Enfin, à terme, est-ce qu'elles seront partout?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que les associations qui font des distributions alimentaires, je pense notamment à Copain, ont pris vraiment conscience de cette question et parfois font des partenariats avec l'association Règles élémentaires, par exemple, pour avoir des distributions. Donc, Alors, je ne sais pas si je peux dire que ça se généralise. Ça devient plus fréquent, en tout cas. Mais c'est une question de volonté sociale et politique, c'est-à-dire qu'il faut que soit les associations, soit les universités se saisissent de la question et disent « Ok, c'est une priorité, donc on va s'organiser pour faire quelque chose » et donc mettre de l'argent, parce que derrière tout ça, il y a un budget qu'il faut dédier à ce type de distribution. Et donc là, moi, je ne peux pas répondre, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes à la tête des universités ou des associations décident d'en faire une priorité.
Est-ce qu'on a vu une avancée au niveau politique? On a quand même eu une première ministre femme à un moment, Elisabeth Borne. Est-ce que ça a bougé de ce côté-là ou pas du tout?
Je ne pense pas nécessairement qu'elle ait fait de la précarité étudiante
son cheval de bataille.
Son cheval de bataille, sous l'angle du genre en tout cas. Oui, c'est quelque chose qui pourrait évoluer dans le futur.
Dans ce rapport, il y a un mot qui revient souvent, qui est le mot décohabitation. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Décohabiter, c'est le verbe qui désigne le fait de partir de chez ses parents. C'est-à-dire que quand on vit chez ses parents, on est cohabitant, on cohabite avec eux. Et quand on décohabite, on part du foyer parental. Sachant que certains étudiants sont aussi dans une organisation un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils partent de chez leurs parents un petit peu, puis ils reviennent beaucoup le week-end ou
l'été
ou pendant les vacances, voire parfois ils vont avoir un stage, par exemple, dans une autre ville. Et puis, 2 jours par semaine, ils vont aller dans cette autre ville, puis ils vont revenir 2 jours plus tard.
Oui, parce que dans ce rapport, vous parlez de plusieurs facteurs qui exposent à un plus grand risque de précarité. La décohabitation, vous l'avez dit, il y a aussi la nationalité étrangère et l'origine sociale modeste, ainsi que dans une moindre mesure, le genre dont on parlait juste avant. Est-ce que tout ça ensemble, ça provoque une précarité encore plus forte?
Oui, c'est-à-dire que quand on se retrouve en France avec peu ou pas d'aide de sa famille, qu'on a, parce qu'on est étranger, une instabilité administrative en plus, c'est-à-dire qu'il faut refaire son titre de séjour, peut-être qu'on est confronté à des démarches en plus dans un système qu'on ne connaît pas, parfois dans une langue qu'on maîtrise moins bien. Oui, ça renforce le risque d'être exposé à la précarité.
Est-ce que quand on arrive de l'étranger, on a droit aux aides sociales? Est-ce qu'on a le droit au CROUS directement?
Non, il y a des conditions d'éligibilité qui font qu'il faut attendre une certaine période pour avoir le droit aux aides vraiment avoir un foyer fiscal, enfin une résidence administrative en France depuis un certain temps, pour ensuite pouvoir solliciter les aides du CROUS, enfin les bourses en tout cas. Par contre, certaines aides sont accessibles plus rapidement, typiquement les aides pour le logement.
Francesca?
Oui, alors j'ai pu aussi lire dans le rapport la difficulté que les étudiants ont aussi au fait de se faire payer, on va dire pas en temps et en heure, mais au bon moment. Et qu'il y a des longues attentes entre le moment où ils prennent le logement, il faut payer le loyer, et qu'ils sont rémunérés par le CROUS pour pouvoir payer le loyer. Et donc pendant ce laps de temps-là, ils doivent choisir soit de travailler ailleurs, ou sinon avoir des loyers impayés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a évoqué, qu'ils ont évoqué les jeunes filles avec vous?
Oui, alors en effet, c'est un sujet assez délicat, c'est-à-dire les étudiants sont très contents de pouvoir recevoir une bourse, par exemple, ou d'avoir une aide au logement. Mais parfois, ces aides sont suspendues ou en retard sans qu'on en comprenne exactement le motif et sans qu'on puisse nécessairement agir dessus. C'est-à-dire, ce qu'on va me dire, c'est tout d'un coup, l'argent n'arrive plus. Je ne sais pas où aller, qui appeler. Je ne sais pas comment faire pour obtenir la réponse de pourquoi tout d'un coup, je n'ai plus ma bourse. Sauf que c'est le mois de septembre, je n'ai pas la bourse, mais j'ai un loyer à payer. Donc, il va falloir que je trouve une manière de trouver de l'argent, sachant que je sais que mes parents ne vont pas pouvoir me le donner. Et donc, j'accepte de travailler. Et j'accepte de travailler dans des conditions et avec des horaires qui sont fortement concurrentiels aux études.
Qui plus est, si on veut s'inscrire au CROUS, il faut prouver qu'on a une situation qui est précaire ou du moins qui justifie ces bourses-là. On peut être relié à un parent, par exemple, mais il ne nous aide pas. Et ça, c'est impossible quasiment de le prouver au CROUS, à part si on part au tribunal. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là?
Oui, alors en effet, les bourses sont attribuées sur critères sociaux et donc s'appuient sur les ressources des parents. Ce qui veut dire que si on a des parents qui ont des ressources importantes, mais avec qui on est en froid et qui refusent de nous donner de l'argent, parfois on est dans une situation qui est assez difficile et il est possible de s'émanciper et donc d'être considéré comme son propre foyer, séparé de ses parents. Mais ça, il faut savoir que la démarche est possible, il faut l'entamer, il faut se lancer dedans.
Il faut 3 ans, non? Je crois qu'il y a 3... Il y a pas un temps minimum?
Ah, je sais pas s'il faut un temps réglementaire, mais en tout cas, c'est des démarches qui sont peu connues et pas très fréquentes. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelques étudiantes qui ont des parents cadres, en fait, qui gagnent bien leur vie, mais qui ont à un moment désapprouvé des choix de leur fille et qui ont dit, mais en fait, non, on va pas du tout te soutenir financièrement, et qui ne peuvent pas, du coup, prétendre à certaines aides sur critères sociaux, parce que sur la fiche de paye, bah, les parents, ils gagnent très bien leur vie.
Et donc, alors, du coup, excusez-moi, mais du coup, dans ce cas-là, elle s'émancipe? C'est-à-dire que la dérogation, elle est là un petit peu. C'est
alors,
de plus se rattacher aux parents.
Oui, c'est possible de plus se rattacher aux parents. Là, c'est des jeunes étudiantes de 18-19 ans. Elles n'avaient pas du tout en tête la possibilité de s'émanciper. Donc, elles ont fait autrement, en fait. Elles ont fait sans ces aides sur critères sociaux. Sachant que, par ailleurs, ça n'empêche pas de demander des aides d'urgence au CROUS en disant « J'arrive, je vous dis exactement quelles sont mes ressources à moi aujourd'hui. » Et là, avec une travailleuse sociale, par exemple, d'établir, en effet, vous avez 150 euros, 200 euros par mois, Et je vois que vous n'avez pas d'aide de votre famille, donc vous êtes peut-être éligible à solliciter une aide d'urgence qui est ponctuelle, mais qui peut venir vous aider, payer votre loyer pendant un ou deux mois, jusqu'à ce que votre situation se stabilise.
Anne-Cécile Cazot, est-ce qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel ? Est-ce qu'on peut être positif pour les étudiants dans le futur ?
Alors, j'ai envie d'être positive pour les étudiants dans le futur, mais je dirais qu'il faut une forte volonté politique pour mieux les aider, mieux les accompagner aujourd'hui.
Donc si on est étudiant, en résumé, on peut aller voir le CROUS, voir les banques sociales alimentaires. On a également le dispositif qui s'appelle le Santé Psy
étudiant.
Tout ça, c'est possible et les numéros sont sur Internet ?
Oui, tout est assez facilement trouvable sur Internet. Et à nouveau, souvent, il y a des services sociaux dans les universités, dans les lieux de formation, qui peuvent aussi répondre aux questions. Il y a aussi une plateforme d'écoute du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que vous pouvez trouver en ligne, ce qui vous permet éventuellement d'appeler quelqu'un et d'avoir un échange téléphonique, ce qui est parfois un peu plus facile quand on a besoin de réponses à ces questions. Parfois, c'est plus simple d'appeler quelqu'un.
Merci beaucoup. Alors, cette interview est terminée. Merci beaucoup, Anne-Cécile Cazot.
Merci,
merci d'avoir été
pour
avec
l'invitation.
Nous. Merci, Hugo.
Merci.
Et tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour, un suspect s'est rendu après le meurtre d'un musulman dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Cet acte est qualifié d'anti-musulman par le procureur d'Alès. La lente réaction du ministre de l'Intérieur a pu choquer. Bruno Retailleau ne s'est rendu dans le département que dimanche. Et puis après 18 mois de guerre à Gaza, 115 Palestiniens ont pu être évacués par la France. Parmi eux, Mariam, une jeune fille de 14 ans, a enfin pu retrouver son père à l'aéroport d'Orly. Ses familles, pour la plupart liées à l'Institut français de Gaza, ont échappé à la violence des bombardements et se préparent désormais à commencer une nouvelle vie loin du conflit. À Paris, le procès des papis braqueurs s'ouvre ce lundi. Accusés d'avoir volé 9 millions d'euros de bijoux à Kim Kardashian en 2016, ces hommes avaient ligoté la star de télé-réalité dans sa chambre d'hôtel avant de repartir tranquillement à vélo. International, c'est désormais officiel, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois avoir envoyé des troupes en Russie. La Russie et la Corée du Nord ont signé en juin 2024 un accord de partenariat stratégique commun qui prévoit une aide militaire mutuelle en cas d'attaque contre l'un des deux pays. L'État condamné à plusieurs reprises depuis 2017 pour ses manquements sur la pollution de l'air a vu ses efforts récompensés vendredi 25 avril. Le Conseil d'État a refusé de le sanctionner à nouvelle astreinte financière, comme le réclamaient des associations environnementales. Les mesures prises pour respecter les seuils de pollution ont apparemment porté leurs fruits. ChatGPT, jusqu'à présent, ChatGPT conservait assez peu d'informations de ses interactions avec les utilisateurs. Les éléments étaient notamment stockés le temps de la session de consultation afin de permettre une discussion suivie sur le même sujet. ChatGPT devra désormais se référer à l'historique de nos dialogues antérieurs. Une version test existait depuis février 2024. La promesse est désormais de rendre possible une personnalisation de notre relation avec ce service d'intelligence artificielle puisqu'il adaptera ses réponses et ses formulations en fonction de l'historique des échanges précédents.
Merci beaucoup Fabien, merci pour ce Flash Info. Et tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Etta Bond, Make Me Cry.
Try.
On vient d'écouter Etta Bond avec le titre Make Me Cry. Il est 19h36 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Tout de suite.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, la chronique de Nordine et nous allons parler Actu Philo.
Bonsoir. Yes, bonsoir.
Bonsoir Nordine.
Hello, c'est Nordine. Donc bienvenue dans la chronique Actu Philo. On va aborder une actu politique et utiliser la philosophie pour tâcher d'en comprendre les enjeux. Aujourd'hui, parlons de démocratie, de Marine Le Pen et de Montesquieu. Comme vous le savez, fin mars, la chef du RN a été condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité dans le cadre de l'affaire des détournements de fonds par la mise en place de faux contrats d'assistants d'eurodéputés. La présidente du tribunal a insisté lors du jugement sur le fait que cette peine d'inéligibilité sera immédiatement exécutée, sans possibilité de faire recours, afin de ne pas permettre à la potentielle candidate à la présidentielle de se présenter, alors qu'elle a été condamnée par la justice et représente, selon elle, un risque de trouble à l'ordre public. L'exécution immédiate des 5 ans d'inéligibilité est une décision juridique extrêmement rare. Selon les chiffres du ministère de la Justice, en 2023, parmi les 16 300 mesures d'inéligibilité prononcées, seulement 4% ont été exécutées immédiatement. Dans ce contexte, Marine Le Pen accuse les juges d'avoir pris une décision avant tout politique. Sans surprise, les membres du RN, face à cette condamnation de leur chef, ont hurlé qu'il s'agissait d'une atteinte à la démocratie. Par exemple, Jordan Bardella a tweeté « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. » D'autres personnalités politiques à droite ont aussi soutenu cette thèse d'une justice contrôlée par la politique, comme Philippe de Villiers, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un coup d'État politico-judiciaire. Même à gauche, certains politiciens ont émis des critiques. Éric Coquerel, député LFI, a dit que son parti n'était pas d'accord sur le fait que Marine Le Pen ne puisse pas faire de recours. La justice est-elle réellement devenue politique? Seul le temps nous dira si cette condamnation a vraiment été motivée par des raisons politiques. Mais pourquoi un tel événement peut effectivement nous inquiéter sur la bonne santé de notre démocratie? Rappelons-nous ce que disait Montesquieu sur la seule manière d'éviter un régime politique autoritaire et despotique. Il faut séparer les pouvoirs. Déjà au XVIIIe siècle, le philosophe écrivait dans son livre de l'Esprit des lois qu'il était essentiel de répartir le pouvoir dans différentes instances pour éviter l'autocratie abusive. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire la décision des lois, revient à l'Assemblée. Le pouvoir judiciaire, où l'on tranche les litiges et condamne les désobéissances, revient au tribunal. Et l'exécutif, qui est l'application des lois, revient au gouvernement. Montesquieu écrivait « Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs ». Par conséquent, sans chercher à excuser les actes de la chef du RN, il nous est possible de comprendre cet actu politique comme un symptôme de la fragilité de notre démocratie censée être basée sur une tripartition des pouvoirs. Pouvons-nous encore croire en la séparation des pouvoirs? Si tel n'est pas le cas, que faire maintenant?
Merci beaucoup Nordine, merci pour cette actu philo fort sympathique. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Alors le Zoom, c'est avec Éléonore et notre invité Jean-François. Vous êtes directeur du théâtre L'Étoile du Nord et nous allons parler festival.
Bonsoir Francesca, merci.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-François Munier. On a le plaisir de vous recevoir ce soir dans le Zoom à l'occasion du festival Éco-Citoyen, qui se déroule au théâtre L'Étoile du Nord, Paris 18e. Mmh. Vous êtes aujourd'hui ici en tant que fondateur de l'association le Festival Concordance et la responsable de la programmation danse, littérature et théâtre pour le festival Éco-Citoyen. Avant de rentrer un petit peu plus en détail sur sa singularité, est-ce que, avec vos mots, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et se démarque d'un festival dit normal? Et dans un autre temps, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que c'est une forme de réponse de rassembler, sensibiliser et de créer ce huis clos créatif et réflexif autour des questions environnementales?
Eh oui, question. Costaud. Alors, on va dire que moi, je trouve que ce qui est important, le festival, ça s'appelle Soyons éco-citoyens, éco-citoyennes. Donc, je trouve que c'est important de s'engager ou, en tous les cas, d'avoir des éléments clés pour pouvoir s'engager, pour pouvoir avoir une prise de conscience de ce que c'est l'écologie, l'environnement. Et on a élargi aussi au vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, vivre ensemble et partager des éléments. Donc voilà, on a essayé pour cela d'apporter avec nos moyens et nos outils qui sont le rapport aux artistes, le rapport à la culture et à la création, de pouvoir donner des exemples, donner des envies, donner des situations qui peuvent peut-être éveiller des sensibilités et des réflexes chez les citoyens et les spectateurs en particulier.
Le festival se déroule donc du 6 au 24 mai 2025, pour ceux qui nous écoutent. Et il cherche notamment à rassembler tout public, en priorité le public jeune et donc scolaire, autour des thématiques d'environnement, de vivre ensemble et de questions écologiques. Quelles activités dans la programmation ont été construites pour trouver ce public jeune et potentiellement pas assez informé sur ces questions?
Alors on fait un vrai travail de fond auprès des écoles, tous les établissements scolaires qui sont autour du théâtre et voire un peu plus loin dans le 18e, voire au-delà. C'est important d'aller rencontrer les écoles, leur expliquer aujourd'hui qu'il faut qu'ils soient engagés dans cette citoyenneté. Donc oui, on va les chercher, même si aujourd'hui on peut parler aussi de la difficulté qu'il y a à sensibiliser les élèves, puisque là on touche notamment des collégiens avec le Pass Culture étant arrêté ponctuellement. C'est assez compliqué aujourd'hui de trouver des budgets pour faire venir les élèves, même si nous, par exemple, pour pratiquer un tarif de 5 euros, ça devient un peu compliqué. Donc la culture, elle n'est malheureusement pas ouverte à tous, donc ça reste quand même aujourd'hui un vrai problème de pouvoir démocratiser cette culture.
Le festival s'ouvre sur la projection du court-métrage Blind Dreamers, qui questionne l'importance de la place du plastique dans notre quotidien, son omniprésence et à la fois sa destruction du lien au vivant et surtout au périssable. Et dans cette perspective, comment on peut continuer de consommer la culture, les pratiques artistiques, le spectacle, dans une démarche plus éthique, sachant que c'est quand même des secteurs qui sont surproductifs, aussi bien au niveau polluant qu'économique.
Ouais, je ne sais pas s'ils sont surproductifs, mais en tous les cas, justement, on essaie aujourd'hui de faire en sorte qu'une création, elle tourne beaucoup plus. Donc, un spectacle ne soit pas créé pour une date ou deux dates et qu'après, elle puisse se déployer dans plein de théâtres, dans toute la France et au-delà de la France. Aujourd'hui, on a besoin de... Bah, justement, ces compagnies, elles s'engagent aussi. Si elles traitent de sujets comme le plastique, c'est parce qu'elles se disent qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on évoque tout ça. Et dans leur création, elles sont très sensibles à faire du recyclage, à ne pas utiliser de matériaux nouveaux, à essayer de faire avec le moins d'énergie possible. Donc chacun essaie à travers ses moyens de réduire au maximum les énergies pour que ça soit cohérent aussi et en adéquation avec leurs engagements personnels, quoi. Voilà, c'est un petit peu tout l'engagement et qu'on essaie nous aussi au sein du théâtre à le vivre, parce que voilà, ça fait plusieurs années qu'évidemment on ne vend plus de bouteilles d'eau, on offre de l'eau, ça fait des années qu'on ne vend plus de coca dans le théâtre. Enfin voilà, on essaie aussi d'être raisonné, d'avoir des producteurs locaux pour vendre des produits et ainsi de suite. Donc chaque petit geste est un geste de plus, quoi.
Il me semble que dans éco-citoyen, il y a surtout éco et qu'on retrouve dans cette démarche éco-responsable des stands de maquillage éco-responsables. Il y a aussi un stand food avec des produits bio et locaux. Plein de petites initiatives. Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de l'empreinte et du modèle que veut intégrer le festival ? Dans cette démarche, pas de label, mais de responsabilité. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez, en tant que directeur du théâtre, d'étendre, non seulement au festival, mais au spectacle et aux réunions d'activités culturelles, d'avoir ces liens avec la consommation et le consommateur?
Oui, ça fait partie de nos engagements du quotidien. C'est-à-dire que Alors c'est vrai que cet après-midi qu'on a appelé après-midi festif parce qu'en fait c'est la soirée de clôture de la saison, donc l'après-midi on a décidé que c'était important d'inviter des gens qui avaient aussi cette responsabilité. Donc il y aura un stand avec le Futal qui fait du troc de vêtements vintage. Donc ça c'est aussi l'idée de voilà, comment on peut entre nous retrouver d'autres façons de consommer sans forcément déployer d'autres moyens que ce qu'il y a déjà. Et puis c'est vrai qu'on travaille avec un café, le café Championnet, où il y a un Essad, donc c'est eux qui nous fabriquent les gâteaux. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire que c'est un circuit assez court, voire un circuit fermé, où vraiment la consommation, les biscuits se fabriquent dans le même bâtiment que nous. Donc c'est aussi c'est cette volonté d'aller vers quelque chose d'assez proche et de le partager au plus grand nombre.
Oui, c'est ça, non, je voulais pas. Le théâtre propose à l'année des résidences, pas permanentes, mais pour une longue durée, pour des artistes engagés et engageants. Et on retrouve la plupart des artistes, pour ne pas dire presque tous, dans la programmation du festival. Qu'est-ce que ça permet pour la création artistique d'avoir au sein de l'Étoile du Nord des résidences de création, donc plus, sur un format plus temporaire, et des résidences longue durée. Qu'est-ce que ça crée entre les pratiques, cette interdisciplinarité
Par exemple, la soirée de clôture, la fête de fin de saison, elle va être organisée par Jeanne Alechinski, qui est une chorégraphe, et Geoffrey Rouge-Caraza, qui est metteur en scène. Et ces deux artistes qui sont en résidence longue au théâtre. Et l'idée, grâce à ce lieu, ils ont pu se rencontrer, ils ont eu envie de travailler ensemble. Enfin, moi, j'ai eu l'intuition qu'ils pouvaient travailler ensemble et du coup, ils s'éclatent, j'ai envie de dire, de travailler, de vivre des expériences ensemble. Donc, je crois que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le Théâtre de l'Étoile du Nord, c'est une scène pour la jeune création. Donc, on n'accueille que des très jeunes artistes qui sont première, deuxième, troisième création. Donc, c'est aussi comment les accompagner dans ce développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une intuition, une idée d'une première création, mais comment après on peut la développer, cette création, ce que vous êtes à l'heure, comment la montrer au plus grand nombre. Donc, notre mission en tant que théâtre, c'est d'aller chercher d'autres théâtres, de leur donner confiance, de les rassurer, de leur donner des conseils. Donc, on est là pour vraiment les aiguiller, essayer de créer un développement dans leur projet artistique. Et puis, moi, ma volonté, c'est aussi, on a un hall du théâtre qu'on essaie de rendre le plus accueillant possible pour que les artistes viennent se croiser. La semaine prochaine, on va faire un laboratoire, le laboratoire des étoiles, où on va retrouver 20 artistes de la saison qui vont venir dialoguer sur comment on monte une prod en théâtre ou en danse ou en littérature, puisqu'on fait aussi la littérature. Voilà, c'est plein de prétextes pour se rencontrer, pour développer, pour se rassurer aussi, de savoir si ce qu'on fait, c'est bien.
On compte notamment dans les collaborations et partenariats culturels le réseau La Vie Devant Soi, qu'on retrouve pour la projection du long-métrage Lisière par le collectif Gwen. Pourquoi cette collaboration culturelle fait écho à ce qu'on pourrait appeler un modèle participatif que rejoint l'Étoile du Nord ?
Moi, c'est la première année que j'intègre ce réseau La Vie Devant Soi parce que justement, ils ont réfléchi comment ensemble se fédérer pour aller accompagner une compagnie. L'objectif de La Vie Devant Soi, c'est de choisir un spectacle pour des spectateurs adolescents. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment trouver une pièce, trouver un artiste qui a ses préoccupations de l'adolescence et comment la diffuser le plus largement possible. Donc là, par exemple, La Vie Devant Soi, on est à peu près 7-8 lieux en Ile-de-France. Donc la compagnie finit sa tournée chez nous à l'Étoile du Nord, mais depuis le mois de novembre, elle a fait une trentaine ou quarantaine de dates dans tous ces lieux, puisque c'est un spectacle scolaire, donc il y a plusieurs représentations à chaque fois. Donc voilà, c'est aussi montrer comment quand on se fédère, comment quand on travaille ensemble, quand on réfléchit ensemble, quand on rencontre un artiste et qu'on essaie de réfléchir avec lui comment on va diffuser son travail, on arrive à montrer plusieurs fois cette même pièce et qu'elle puisse justement faire écho auprès du public.
Avant de nous quitter, peut-être une ou deux dernières questions. Si vous deviez choisir un message ou une idée pour transmettre à celles et ceux qui souhaiteraient venir ou qui sont déjà venus par rapport au concept global de festival éco-citoyen, mais plus précisément de celui qui est proposé par l'Étoile du Nord. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre ?
Alors, il n'y a pas 50 mots. En fait, moi, j'ai toujours le même. C'est soyez curieux. En fait, la vie, c'est être curieux, c'est s'interroger sur l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui nous unit ? Donc, voilà, la curiosité, c'est le maître mot et la rencontre.
Et donc, juste avant, pour ceux qui nous écoutent, avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour au Festival éco-citoyen de l'Étoile du Nord du 6 au 24 mai. Stand d'assaut de produits engagés, projections, performances, débats, pour s'inviter au centre des préoccupations d'aujourd'hui et de demain, pour donner un sens et du sens à la citoyenneté. On a un accès PMR et personne à mobilité réduite et malvoyant. C'est important de le préciser parce que c'est encore très rare. Des tarifs réduits pour bon nombre de situations et des avantages pour les habitants des environs 17, 18 et 19e. Merci d'être resté avec nous, Jean-François Munier.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, merci Léonore. Et nous allons faire une petite pause musicale. Donc on va écouter Arthur Ellie et Selima, le titre Les Anges. Merci.
Je reçois mes amendes par mail. C'est dommage, il fait beau. Je vais pouvoir m'enfermer dans ma chambre et revendiquer ma peau. D'ordinaire, je suis calme, mais aujourd'hui j'ai la tête de mort. C'est pour le corps des bêtes, pour le pétrole par terre, pour les avions du week-end pas cher, pour les oiseaux blessés dans la ville. Et on est grave nombreux. Je veux pas devenir un sac de mots chez le psy, donc je vous crie des trucs dans la langue des bêtes. J'ai le souffle court et la veine qui coule dans ma chambre, je reçois mes amendes par mail. Tous les jours on verse des poèmes par terre, et sur leur vieux monde on soupire comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges.
Comme si c'était nous. Je n'aurai ni voiture, ni le brillant futur. Rêvé par mes pauvres parents. Mouton en pâture, je brouterai les ordures. Nous, les enfants perdus, on fait des monticules. La terre saigne, dévorée par la teigne. Aujourd'hui l'été dure la putain d'année. Les incendies géants brochettent mon écran. Vague de bouts de tsunami, plus de bombes et de corps. On danse sur leurs décombres, petites graines dans les airs. Sur leur vieux monde, on germe.
Comme si c'était nous les anges. 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 Comme si c'était nous les anges.
Nous venons d'écouter donc Arthur Ellie et Selima, Les Anges. Et tout de suite, c'est la chronique de Gauthier.
La matinale de 19h.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 61e chronique sur ces ondes et écoutez, cette semaine ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chanson ici, alors c'est parti, la régie, balancez l'instru. Voilà, on est, on pose une ambiance, on est à l'époque de nos grands-pères, les années 20.
Non mais...
Et puis voilà, on va chanter cette petite chanson-là qui fait bien plaisir, qui est remplie de nostalgie. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est quoi cette merde? C'est quoi le son que tu m'as mis là? Attends, la régie, là, ça a un problème technique? J'en ai rien à foutre, quoi, c'est ton taf, non? Et c'est qui se fout de ma gueule comme ça? Bon, coupe là, c'est bon, ça m'a saoulé. Cette chanson, c'est pas grave, de toute façon, c'était pas ouf, Charles Aznavour. Heureusement, j'ai une autre chanson en stock. Allez, envoyez la régie, le son, s'il vous plaît. Oh, attends, c'est quoi ce volume là? Oh là là, attendez, baisse! Mais attends, tu sais pas comment baisser le son? Tourne-le! Putain! Tiens, il n'y entend rien! Ça vaut le coup d'aller chercher des gens de France Inter, hein. Ça change de console, ça ne va pas s'adapter. Attends quoi? Attends, il y a l'autre gars. Putain, il y a l'autre gars qui est revenu, qui s'est foutu de ma gueule, c'est une blague? Bon. Voilà, là on est avec un truc, voilà.
Ça vient de chez moi, ça, Hugo.
Voilà, plus. Ah, c'est vrai, c'est de chez toi? Mmh. Voilà, encore l'époque de nos grands-pères, des grands-pères de nos grands-pères. Voilà, le 18e siècle, de l'époque d'avant. Donc, années 20, mais encore avant. Georges Brassens. En plus, ça me permet de renouer avec ma bonne vieille imitation. C'est tranquille. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ah ouais, ce bateau qu'on se... C'est quoi cette merde encore? C'est quoi ça?
C'était la bohème.
Attends, mais c'est encore lui, il se fout de ma gueule ou quoi? Attends. Mais en plus, la bohème, c'est la première chanson, bordel. Mais putain, mais vous êtes pas foutu d'empêcher des pirates de squatter l'antenne, quoi. Putain, ça valait bien la peine de vous payer la formation réalisation à 10 000 balles. Des incapables, quoi. Coupez tout. C'est bon, encore, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, heureusement que j'ai une dernière musique sous le coude, mais bon, vas-y. Vas-y, envoie.
Vous savez quelle est l'activité nature préférée des musiciens?
Non mais ça, il la joue humoriste maintenant. Il veut me prendre ma place, ce gougnafier. Il a cru que j'étais Nagui ou quoi? Vas-y, vas-y, dis-moi la réponse, je suis curieux. C'est quoi l'activité de nature préférée des musiciens?
La pêche à la ligne de basse.
La pêche à la ligne de basse. Oh pardon. Ça m'a pris par surprise. C'est... Écoute, le pirate, tu as gagné ta place auprès du plus grand humoriste de RCP. Bravo pour ta persévérance. Des comme toi, faut pas les laisser filer. Hein. Bon bah, hésite pas à prendre contact avec moi parce que je pense que nous sommes promis à de grandes choses ensemble. Salut. La ligne de passe.
Merci beaucoup, Gauthier. En tout cas, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup. C'était Francesca à l'animation. C'était donc Hugo à l'interview. Merci Fabien pour le Flash Info. Éléonore pour le Zoom. Et enfin Nordine et Gauthier pour les chroniques. Merci. Tu me perturbes à chaque fois. On se retrouve donc demain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, la matinale-bas. RCP et ou sinon sur le site internet lamatinale.org.
.org, oui.
Merci beaucoup.
J'ai perdu mes...